Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'autre jour, nous recevions deux jeunes femmes sociologues qui avaient collaboré à un ouvrage collectif autour des travailleuses du sexe. Du trottoir de la prostituée jusqu'au... Mes invités me demandent où... enfin, doivent se demander où je pars. Donc, du trottoir de la prostituée jusqu'au plateau de l'actrice porno. Si je rappelle cette émission, c'est parce que l'une d'entre elles, Alice Sala, me faisait remarquer que prostituée, et d'ailleurs elle n'avait pas dit prostituée, elle avait dit pute, mais dans le contexte de sa réflexion, c'était logique. Et elle expliquait qu'être une pute, c'est n'être que cela dans le regard de la société. C'est plus qu'un statut, c'est un état qui fait oublier qu'il y a derrière cette prostituée une femme, évidemment, une mère peut-être, une fille certainement, une épouse à l'occasion, quelqu'un qui vit, qui fait ses courses, qui lit, qui a des opinions, qui vote, qui a une sensibilité propre. Eh ben, avec un flic, c'est tout à fait identique. C'est-à-dire un policier, c'est d'abord un flic. Avant toute chose, avant d'être un homme, avant d'être un père, un époux, etc., un flic, c'est un flic. Et ce rapprochement est d'autant plus valable que les deux professions ont donné lieu à des vocables argotiques, pute et flic. Et puis ça va assez bien ensemble. Ce n'est pas l'un de mes invités de ce soir qui le niera. Pute et flic ont toujours eu beaucoup de choses à se dire et à partager. Des villes, des morceaux de nuit et de trottoir, donc beaucoup de conversations et probablement beaucoup de respect. Bonsoir Frédéric Maillard.
Bonsoir.
Bonsoir. Il se trouve que vous n'êtes pas flic.
Presque.
Vous êtes prof. Oui, mais prof, c'est un diminutif de professeur. Oui. C'est pas comme flic, parce que flic, c'est pas un diminutif de policier. Il se trouve que donc vous n'êtes pas flic, mais que vous avez l'occasion de travailler avec eux. Je me suis à un moment posé si c'était chez vous un regret de n'avoir jamais embrassé une carrière policière. Est-ce que par exemple ça faisait partie de vos rêves d'enfant, homme grenouille, pompier ou flic ?
Non, pas du tout.
Non.
Et c'est vrai qu'on essaye de me remettre la carte de police depuis quelques années, je la refuse.
C'est vrai ?
Oui, parce que je suis sûr que si, le jour où je la possède, je ne peux plus agir comme je le fais.
Non, vous ne serez plus libre de le faire.
Plus du tout. Ouais. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ne m'inspire pas. C'est pas tant la police qui m'importe, comme vous l'avez compris, mais c'est plutôt notre collectivité. Et comme j'y ai observé une police qui joue un rôle très important, je me suis approché d'elle, mais comme d'autres acteurs sociaux aussi, au fond. Hein. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on s'attarde beaucoup sur la police, c'est tant mieux.
Un peu partout en Europe.
Un peu partout en
beaucoup
Europe.
En France, par exemple, et on y reviendra.
Voilà, c'est ça. Mais au fond, ce pourrait être n'importe quelle autre profession. Je suis un passionné des métiers. Quel qu'il soit, lorsque je vois une femme ou un homme à l'œuvre...
En interaction avec la société.
C'est extraordinaire, oui. Mm-hmm. Ouais, vraiment.
Pas les métiers solitaires, mais ces métiers qui interagissent sur la société et qui forcent la rencontre avec l'autre.
Oui, et ces
d'une
métiers
manière ou d'une autre.
Qui s'inventent, somme toute. Mm-hmm. Hein. Oui.
Frédéric Maillard, vous êtes aujourd'hui, après diverses aventures professionnelles, responsable de cours en sciences humaines, sciences sociales et gestion, auprès des policiers, pas ceux auxquels vous vous adressez évidemment, mais des policiers que dans une vie professionnelle antérieure, vous avez vu, je ne sais pas, mais vous avez su qu'ils se transformaient parfois en bourreaux.
Oui, c'est ma première stupeur de fin d'adolescence, c'est de découvrir à travers... aux côtés de
une association, hein, en l'occurrence.
Oui, une association, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, pour celles et ceux qui la connaissent. C'est au fond une organisation pendante d'Amnesty International. Mm-hmm. Et à travers cette organisation, il m'a été donné de rencontrer des enfants, des femmes et des hommes victimes de torture. Et de constater que ces tortures sont instituées, institutionnalisées, et que leurs bourreaux sont essentiellement, si ce n'est systématiquement, des agents d'État, des policiers ou des militaires. Alors voilà, le rapprochement qu'il m'a été donné d'observer et de découvrir que ces jeunes hommes, pour la très grande majorité, étaient devenus tortionnaires après une formation, un endoctrinement, une instruction... Ouais. Très, très sévère.
Ça veut dire qu'une police est très dépendante de l'État pour laquelle elle travaille et de son statut plus ou moins démocratique.
Absolument.
Ou pas du tout, ou très démocratique. Mais enfin, on va évidemment revenir à tout cela parce que C'est à l'ordre du jour de cette émission et du livre que vous faites paraître. Juste une petite question. Il y a une chose, j'ai pas bien compris ce que c'était, parce que je suis parfois un peu bête. Qu'est-ce que c'est que Preventive Business? Est-ce que ça a toujours cours? Et si oui, qu'est-ce que c'est au juste?
La Preventive Business...
Parce que quand on lit le texte, on ne comprend pas nécessairement.
Oui. Preventive Business, c'est une entreprise, une start-up, comme on l'appelle aujourd'hui.
Ne dites pas ça, ça fait peur à tout le monde. À cause de la
et
bulle.
Pourtant,
la fameuse bulle, vous savez.
C'est un mode d'action qui a été créé en 1996, après 6 ans de gestation. À l'époque, cette organisation était organisée sous forme d'association à but non lucratif et s'appelait Projet de Paix. Elle s'est transformée en Preventive Business. Et Preventive Business est un mode d'action qui est présenté aux entreprises transnationales suisses qui ont des liens d'affaires...
Aux entreprises transnationales suisses, celles qui travaillent à l'étranger et pour l'étranger.
Oui. Voilà,
et
qui ont des liens d'affaires avec des pays, notamment les pays à risque, ou en processus de développement démocratique, comme on les appelle, et qui ont un lien donc de production commerciale avec ces pays et les régions où elles sont implantées, soit à travers une succursale, une unité de production, ou que sais-je. Et le Preventive Business accompagne ces entreprises transnationales suisses, plutôt de petite et moyenne importance, dans leur engagement civique, en les accompagnant pour leur proposer non pas seulement de délocaliser leur production, et on l'a compris pour des raisons financières, d'économie, de gains.
Mais j'espère bien, oui.
Oui, alors cela est explicable, même si on peut discuter longtemps des conditions, mais pour qu'elles transportent et exportent également le savoir-faire suisse, la démocratie, l'éducation civique, des valeurs constitutionnelles que sont par exemple les droits humains. Et consacre quelques jours par année à ces nouveaux employés d'outre-mer ou des pays de l'Est à la sensibilisation à ces valeurs. Voilà. Voilà donc une entreprise suisse qui ne se contente pas seulement d'un business commercial, mais aussi d'un business civique. Mmh. Et c'est ce que fait Preventive Business. Donc c'est un outil d'action et Preventive Business n'est autrement constitué que par des personnes, notamment des policiers. C'est bien la raison pour laquelle je suis tombé dans le chaudron.
Des policiers non bourreaux.
Non bourreaux, des militaires et d'autres qui accompagnent ces entreprises dans ce processus voilà, de prévention des conflits, dans le but de prévenir les conflits dégénérescents et violents.
Parce que... Et de donner les outils d'y répondre,
oui,
enfin,
oui.
Donner les outils d'encadrement de réponse à des conflits.
Et le monde...
Internes ou avec le pays.
Exactement.
Ou avec l'État ou le gouvernement. Enfin,
voilà. En général, c'est les régions où
sont situées. Ou l'autorité locale.
Enfin. Voilà. Mmh. Parce que dès lors qu'une
entreprise. Je comprends mieux.
Voilà. Dès lors qu'une entreprise suisse ou occidentale s'implante, par exemple en Roumanie, dans une région plutôt pauvre, puisqu'on va chercher des terrains pour y construire une usine, par exemple de textile, pour donner un exemple très concret, eh bien, cette entreprise, elle crée aussi une dislocation d'avec son entourage, parce que les villageois, des villages voisins voient, eh bien, voilà, une entreprise suisse
s'installe
avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, embauche des travailleurs, évidemment pas tout le monde a la chance de pouvoir y travailler, ça crée des tensions. Et déjà là, il y a un travail de médiation à opérer très très important. Et c'est ce que fait Preventive Business.
Pour ne pas perturber finalement un tissu social déjà fragile.
Exactement. C'est ça.
Frédéric Maillat, on ne parlera pas de ça ce soir, mais c'est certainement absolument passionnant. Vous n'êtes pas venu seul, Frédéric Maillat, au combien. Je me sens extrêmement bien encadré, je n'ai plus rien à craindre. Et je ne vais pas vous demander de me présenter la personne qui est à votre gauche. C'est quoi la troisième, la quatrième fois que vous vous asseyez dans ce studio, et Patrick Delachaux? Vous êtes un abonné,
ça,
en fait.
Ça doit être la troisième fois.
Oui, je crois que vous
allons, disons
je pense
4,
que c'est la 4.
C'est un bon chiffre.
La première fois, vous étiez flic-écrivain. Aujourd'hui, vous êtes un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit et qui projette dans l'action le fruit de ses réflexions.
Alors,
non, intellectuel, ça vous fait peur?
Écoutez,
ça vous dérange?
Non, ça me dérange pas du tout. Je réfléchis à ma condition, à ma façon de fonctionner.
Surtout à la condition de vos collègues, surtout.
Oui, mais je réfléchis dans cette question à mon fonctionnement et surtout en lien avec l'écriture aujourd'hui. Et je suis absolument convaincu que je travaille avec l'émotion, avec le foie, avec la rate, avec l'intestin. Je travaille avec le cœur, avec l'estomac. peu avec l'intellect.
Mais Nietzsche, le philosophe, disait ça aussi. Donc, vous voyez, ça ne vous exempte pas.
C'est pour ça quand on me dit un intellectuel, je m'en défends parce que je suis pas en vie.
Vous travaillez de toute façon avec Frédéric Maillard et ce livre dont on va parler ce soir, vous l'avez co-rédigé comme un petit peu comme le précédent, enfin de manière un peu différente. On y reviendra. Policier, gardien de la paix, aux éditions La Question, fameuse petite édition des éditions de l'EB, de tout petits ouvrages qui ressembleraient, on va citer quelque chose qui est connu de tout le monde, c'est les Que sais-je. Donc on peut les citer pour faire référence à ce à quoi ça peut ressembler, mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire parce que la question s'inscrit de manière beaucoup plus vive dans des questions de société que ne le faisait le Que sais-je, qui pouvait parcourir absolument tous les sujets. Donc La Question, édition de l'EB, et le titre, policier. Il faut tout dire là, on est obligé. Policier, virgule, gardien de la paix,
point d'interrogation.
Frédéric Maillard et Patrick Delachaux, on va y revenir. J'aimerais, cela dit, que vous nous présentiez votre invité de droite.
Oh, volontiers. Blaise Fatebert.
Bonsoir Blaise Fatebert. Bonsoir. À Sainte-Croix, ils sont tous sur la table, en train de danser. Ouais, c'est Blaise. Allez-y, pardon.
J'ai rien dit du tout, puis on verra qui écoute votre émission.
Oui, on verra bien, s'ils sont sur la table. Ouais, c'est Blaise, écoute. Frédéric Maillard, dites-nous qui est Blaise Fatebert.
Ben oui, écoutez, si avec Yves-Patrick Delachaux, nous faisons à chaque fois qu'il est possible la démonstration de notre pluridisciplinarité, oui, le ventre et l'intellect, hein, si j'ai bien compris. Eh bien, avec Blaise, nous prolongeons...
Le cœur et l'intellect. Vous n'avez rien compris.
Mais je sais le ventre me plaît bien.
Et c'est vrai que tous deux, essayons de ne pas rester seuls et allons à la rencontre, comme vous le savez, du plus grand nombre. Et puis, surtout, des responsables politiques, des élus, de nos exécutifs, ceux-là même qui ont la charge du bien-être, de la collectivité, de la sécurité, qui sont garants de cet état de droit dont nous parlons. Mmh. Et qui nous est si cher. Et Blaise Fatebert en est, pour moi, un des exemples probants. Je suis son parcours depuis des années. Il m'impressionne beaucoup parce qu'il est capable de se retourner sur lui-même. Il est capable d'objection. Vous savez combien j'y suis sensible. D'objecter ce qui contrevient à l'intégrité morale et physique des humains.
Éthique.
Éthique, oui, ouais. Exactement. Voilà. Et quoi dire d'autre ? Qu'il a été mon étudiant, que nos regards se sont croisés dans les salles de classe de la Haute École de Travail Social, que ses interpellations m'ont toujours touché, si ce n'est perturbé, que très vite, eh bien, nous avons échangé nos visions d'avenir, et puis ensuite qu'il a progressé en politique et en politisation. Et j'y suis retourné... près de lui, je suis retourné à ses côtés dans sa ville, celle qu'il préside, Sainte-Croix. On a fait un tour de ville, non sans prendre la peine de fréquenter les montagnes, les sommets, la vue extraordinaire. Il m'a présenté cette région, il m'a présenté les projets économiques, les projets sociaux, et j'ai été emballé. Et c'est vrai qu'Yves-Patrick et moi-même sommes très très sensibles à ces micro-organismes qui fonctionnent très bien, qui réfléchissent, qui se positionnent, probablement parce qu'ils sont relativement vulnérables, hein, de petite taille, souvent mieux que les grandes villes, hein.
Ça veut dire aussi que tout cela ne tient pas nécessairement à des systèmes, mais à des hommes.
Oui, et à des femmes,
à des hommes,
oui,
à des humains.
Je place la femme ce soir parce que je suis bien malheureux d'être venu avec deux invités.
Mais tout va bien.
C'est ça, mais
je placerai la femme moi-même, si vous permettez. Bonsoir, Blaise Fatebert.
Oui, bonsoir.
Syndic de Sainte-Croix, on dit syndic à Sainte-Croix ? On s'y perd un peu parfois. On dit syndic à Sainte-Croix. Comment on passe de la théologie à la syndicature ? On dit syndicature à Sainte-Croix ?
On dit pas qu'à Sainte-Croix, du reste, syndicature, effectivement.
Donc comment passe-t-on de la théologie à la syndicature ?
Ben, en renonçant au pastorat. Ça, c'est la première des conditions. Et puis, quand on renonce au pastorat, si on ne travaille pas dans les médias, on s'oriente assez généralement.
Mais oui, ça existe. À nos bons collègues. Mais évidemment. Et on les aime, Michel Cochère.
Des gens qui ont appris à lire et à penser,
Cyril
Desprats, à réfléchir, et qui sont toujours utiles là où ils se trouvent. Et puis, si on ne fait pas ça, eh bien, à ce moment-là, on se tourne parfois et assez souvent du côté des métiers sociaux. Mmh. Mais mon premier job, c'était ici. J'étais
paraît, ou mais vous m'avez dit ça juste avant l'émission. Allez-y, parce que c'est formidable.
Ouais, j'étais le téléphoniste de l'émission La Ligne de cœur.
Eh oui, Samuel Morier-Genoux qui est en régie, qui en reste baba.
Mais non, tout arrive. C'était le premier job. C'était la dernière saison où Bernard Pichon animait l'émission. Ouais. Et puis c'est comme ça que je suis entré dans le...
Cela dit, c'est un rôle social.
Oui, complètement.
Alors peut-être un rôle social de l'ombre et très discret, mais ouais. C'est un rôle social que de recevoir des gens qui ont envie de parler de leurs difficultés, de leurs malheurs, de leur misère, de leur tristesse, et qu'il faut savoir soit accepter, soit détourner d'une antenne qui leur est qui miroite comme une thérapie. Hein.
Tout à fait. C'était assez marrant comme
ils sont
travail.
Dissipés, vos deux camarades.
Oui, non, mais c'est pas grave.
Je l'avais concentré, je disais comme un flic. Un flic accueille,
oui, on va en parler. Il devrait accueillir. La téléphoniste de la ligne de cœur, je peux vous le dire, accueille. Le flic, on va y revenir. Pas toujours.
Voilà. Et puis, pour finir de répondre à votre question, ensuite de quoi j'ai travaillé dans différentes associations sociales, souvent dans des milieux assez marginaux. J'ai fait ces études de travailleur social où j'ai eu l'occasion de rencontrer Frédéric Maillard. Mm-hmm. Et puis, presque à l'insu de mon plein gré, finalement, je me suis retrouvé sur les listes, ouais. Mais
comment à l'insu de votre plein gré?
Non, parce que j'ai...
Vous m'expliquez très bien. Vous dire à Sainte-Croix, évidemment, on le sait, Sainte-Croix est une région qui a été pendant un temps sinistrée.
Ce temps est révolu.
En revanche, vous le disiez aussi, les jeunes s'expatrient encore pour aller faire leurs études ailleurs.
Oui.
Et ceux qui reviennent, on leur confie des responsabilités. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est un destin.
C'est souvent comme ça.
Et c'est ce qui s'est passé pour vous.
Bah, voilà, oui, en gros.
Vous êtes parti, vous êtes revenu. Et exact. On vous a mis sur les listes.
Non, mais j'y ai...
Parce que vous êtes revenu plus intelligent que vous n'étiez parti.
Oui, alors ça, certainement, mais je pense que je peux repartir quand je veux pour revenir plus intelligent. On n'a jamais fini.
Non. Petit exercice obligé. Et vous allez certainement le remplir à merveille. Il faudrait nous faire le portrait de Frédéric Maillard, tel que vous le connaissez maintenant.
Alors, Frédéric, vous voulez la version longue ou la version courte? Je commence par la version courte.
On verra si
la version courte, je dirais de Frédéric Maillard, qu'il est une estafette sémiophorique.
Ça commence bien.
Une estafette sémiophorique.
Je sais qu'il y a des réticences par rapport à l'intellectualité ici.
Porteuse de sens.
Oui, mais je vous explique. Frédéric Maillard, il l'a dit lui-même, il le dit dans son bouquin, là. Il est un explorateur de l'ordinaire, en l'occurrence ici l'ordinaire du métier de policier, et quand il explore un ordinaire, il va à l'essentiel, et il en revient aussitôt, après avoir rappelé les valeurs fondamentales qui font qu'un métier est ce qu'il est, et il en revient aussitôt pour identifier, rechercher, tracer les signes de la présence de ces valeurs dans cette pratique. Et s'ils n'y sont pas, et à ce moment-là, il met un petit indicateur en disant « Ici, il y a rupture de la ligne de cohérence entre les valeurs dont on se réclame et la manière
et
dont
la
elles
pratique.
Sont mises en application. Oui. » D'où l'idée d'estafette, cet aller et retour sans cesse entre l'essentiel et puis le contingent, d'une part, et puis d'autre part, cette capacité à porter ces signaux, ces signes, qui nous indique qu'il y a un sens à requérir et reconquérir qui est toujours remis en cause. C'est l'humain, c'est comme ça.
C'est un joli portrait.
Oula, j'en reviens pas, c'est extraordinaire.
Estafette sémiophorique, j'espère que vous avez noté ça, parce que estafette sémiophorique...
Mais je devrais le noter plusieurs fois pour pas l'oublier, mais c'est vrai, et ça me parle parce que lorsque je me suis rendu à la police, je me souviens très bien, c'était pour Preventive Business, précisément, on avait besoin de compétences policières. Mmh. Et on me signale que la police cantonale genevoise a de l'expérience dans des missions internationales. Alors je m'inquiète de savoir qui je peux approcher à la police cantonale genevoise. Et on me dit, si tu vas à l'état-major, tu n'auras pas de réponse avant plusieurs années, ton dossier va tomber aux oubliettes, ça sert à rien. Si tu vas voir Yves-Patrick Delachaux, en 24 heures, tu as une réponse. Et je m'y suis rendu, et effectivement, alors pas 24 heures, hein, donc une heure après, nous,
ah oui, par d'accord, rapide.
Une belle poignée de main,
c'est une fusée, c'est métaphorique.
Et c'est vrai que dans le bureau d'Yves-Patrick, dans le même temps que je lui vendais mon Preventive Business, pour lequel il était convaincu, très vite, il m'est apparu tous ces dysfonctionnements.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne s'est plus quitté. Et c'est pour ça que aujourd'hui encore, on essaye de tendre à quelques propositions hein, qui résonnent sur celles et ceux qui nous les enseignent, parce qu'on n'invente rien. Hein. Les réponses, elles sont là. Malheureusement, elles sont souvent négligées par celles et ceux qui ont la charge et la direction d'une police ou de n'importe quelle autre institution. Et lorsque je me suis rendu à Sainte-Croix, c'était la même chose. Je devais me calmer, parce que même depuis le haut des pâturages, je voyais des choses...
Qui dysfonctionnaient.
Oui, mais en même temps, vous allez me dire, c'est le beau rôle. En même temps, c'est extraordinaire de pouvoir, ensemble, en pluridisciplinarité, pallier...
Et dans la sérénité.
Mais oui, il n'y a rien de plus normal. C'est si on
de n'être pas l'acteur du dysfonctionnement, ni la victime, mais de pouvoir l'observer et l'analyser. Oui, dites-moi.
Ouais, ni l'acteur, ni la victime, là, je ne suis pas aussi sûr que ça. Parce que lorsque vous êtes justement la personne qui va mettre le doigt sur un dysfonctionnement, votre sort sera très différent selon que vous êtes une personne parmi d'autres ou selon que vous êtes celui de l'extérieur.
Le c'est tiers. Bien ce que je dis.
Voilà.
En l'occurrence, il est de l'extérieur.
Alors là, il est de l'extérieur, mais suivant où on met le doigt, même celui de l'extérieur peut être affecté. Et il doit aussi se prémunir et se protéger des
impacts.
Il
peut se retrouver avec une charge très lourde à porter sur le dos, hein, à assumer.
C'est pourquoi je refuse la carte de policier.
Et c'est voilà. Pour ça que vous refusez Yves-Patrick Delachaux.
Oui, pour moi, Frédéric, c'est Jiminy Cricket.
c'est joli aussi, la conscience perchée sur l'épaule.
Ce qui vous a raconté tout à fait juste de notre rencontre. Par contre, j'avais un intérêt. J'étais dans la nuit, en charge d'un dossier d'éthique
dans
et de droit
ténèbres.
Humain. Dans les ténèbres. Je pratiquais le métier depuis longtemps. Je ne connaissais rien à la sécurité. Je ne connaissais pas ma mission. Et surtout, j'avais un dossier d'éthique et de droit humain.
Vous étiez paumé, en somme.
En tant que policier, nous sommes perdus. Et on a besoin d'éclaireurs. Et dans ces ténèbres, avec mon dossier d'éthique et droit humain, quand j'ai ce farfelu qui débarque dans mon bureau, enfin, je voyais quelqu'un différent que ceux que j'avais rencontrés avant, qui venaient parfois nous enseigner les droits humains, et qui, finalement, cette résonance n'avait pas d'éclat. La police n'était peut-être encore aujourd'hui pas tout à fait perméable à ce type de propos. Quand Frédéric est arrivé dans mon bureau, comme il l'a raconté, j'y voyais un intérêt. Il m'a séduit, il m'a illuminé, il m'a ouvert une porte. Et c'était évident que ce serait le personnage avec qui nous allions pouvoir faire un bout de chemin pour mettre en place de l'analyse institutionnelle, dans un premier temps, véritablement sur les droits humains.
Et on va y revenir, puisque c'est le propos de ça. Merci. Ça vous a coûté combien, ça fait?
C'est trois dénominations compliquées, hein, mais je les ai notées.
Non, Jiminy Cricket, ça va. Jiminy Cricket, ça va.
On va rester dans le conte et la remise.
Ça va aussi, mais...
Les entrailles de la baleine. On reste dans les entrailles, moi
les
j'aime bien ça.
Les entrailles de la baleine. À ceux de nos auditeurs qui auraient loupé les épisodes précédents, je rappelle que vous avez exercé, Yves-Patrick Delachaux, le métier de policier. À Genève. Parallèlement, vous avez suivi des cours à l'université et vous écrivez des bouquins. D'abord des livres policiers, et puis encore, ça n'est pas terminé, plus ou moins, enfin très inspiré en tout cas de votre propre expérience. Et puis petit à petit, vous êtes mis à réfléchir à votre rôle, au rôle de la police, au rôle souvent très mal incarné de l'encadrement et des formateurs de la police. C'était d'ailleurs le propos de votre livre précédent, écrit aussi avec Frédéric Maillard. Pamphlet plutôt sur la police. Ça vous a valu des ennuis, cette histoire-là, ou pas du tout? Vous n'êtes plus dans la police, aujourd'hui...
Non, mais des ennuis.
Pas que celle-ci.
C'est, on l'a déjà, je crois, évoqué à l'antenne, c'est-à-dire l'écriture n'est pas acceptée en tant que telle dans un corps
qui
sclérosé, qui est une organisation policière.
Et pourtant,
l'immense pratique policière demande vraiment de l'écriture. Oui. C'est pas ça, c'est-à-dire que l'expression, la libre expression qui pourrait être de la peinture ou autre, qui est ici de l'écriture, pose des problèmes. Mm-hmm. Mais je dirais, publiquement, c'est assez bien vu d'être contre les écrits sur un métier en repoussant les gens à l'extérieur en disant mais vous connaissez pas le métier, c'est pour ça qu'on vous sort tout le temps les sauces qu'il y a qu'un flic de rue qui a 30 ans de service qui peut parler de la police sinon les autres en sont exclus, mais dans l'intimité on vous appelle, on vous écrit
et on reçoit
Frédéric et d'autres confrères auteurs, une foule de témoignages de policiers, mais c'est pour l'instant peut-être pas public.
On va parler de ce livre, tout petit livre, tout petit non, oui, il est petit par la taille, mais effectivement il est relativement complet. C'est vrai que quand on l'a lu, on a une vision assez claire de ce que devrait être la police, de ce qu'elle n'est pas toujours, et de ce qu'il faudrait faire pour qu'elle le soit, en quelque sorte. Après, évidemment, on pourrait faire 3, 4, 5, 6 volumes du contenu, enfin des prémices de ces questions que vous posez, puisque c'est bien le propos de cette édition, La Question, édition de l'EB, policier, virgule, gardien de la paix, point d'interrogation, on en parle, mais auparavant, on écoute un petit blues, ça peut faire que du bien.
Ah, oui.
Eh ben oui, Chamber Soul, When I'm With You.
We'll spend our time in the throes. Good old-fashioned company. Me for you and you for me. You're all that's on my mind. 'Cause when I'm with you, everything is going right. And when I'm with you, ain't nothing else on my mind. But being with you, I'ma give you all I can. I believe in love again. Blanket spread in the grass. Summer breeze blowing past. Picnic baskets full of food. Made by me, made by you. Glass of wine takes off the edge. Talking like we're long lost friends. You're all that's on my mind. When I'm with you, everything is going right. Ain't nothing else on my mind. But being with you, I'ma give you all I can. 'Cause when I'm with you, I believe in love. Yes, I believe in love. Yeah. Everything's fine, 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 yeah, yeah. If you had some plans, better call them off now. 'Cause you're all mine, 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 mine. Ooh, when I'm with you, everything is going right. When I'm with you, ain't nothing else on my mind. But being with you, I'ma give you all.
C'est Chamber Soul, When I'm With You, et puis on fait un petit tour sur la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'axe Chiasso-Lucerne, la circulation est à nouveau fluide aux abords de l'entrée sud du tunnel du Gothard, en direction de Lucerne. Je ne peux pas prononcer Gothard sans avoir quelques larmes qui perlent. Vous venez donc, je l'ai dit, de faire paraître l'un et l'autre aux éditions de l'EB dans la série La Question, ce petit ouvrage, policier, virgule, gardien de la paix, point d'interrogation. Et c'est d'ailleurs la toute première question à laquelle vous essayez de répondre. Je pense que c'est vous qui le faites, Frédéric Maillard. Parce qu'on essaye dans le livre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, Blaise Fadbert? On essaye dans le livre de savoir lequel a écrit quoi.
Quoi, oui.
On le repère assez vite, en général. Non pas que ce serait que l'un écrirait moins bien que l'autre, mais effectivement, il y en a un qui parle avec le ventre et l'autre qui parle avec le cerveau. Donc, les policiers sont-ils là seulement pour garder une paix qui nous serait donnée par on ne sait quelle grâce, divine peut-être, ou étatique, enfin, qui nous serait due? Et ce n'est pas exactement ça. Vous dites la paix, c'est pas un état qui nous est donné, c'est quelque chose que l'on construit.
Oui, vers lequel on tend. Hein.
Et on a oublié ça. On est des générations nées bien après la guerre. Pour certains d'entre nous, ceux qui ont vécu la guerre le savent, que la paix est une chose fragile. Ceux qui sont nés après, et on est très nombreux quand même, l'ont oublié probablement.
Oui, et puis Elie Wiesel, encore tout récemment, le 14 octobre passé, à l'Université de Genève, nous rappelait... Hein, qu'il ne faut pas oublier ce passé-là, qu'il a vécu, parce que les survivants, pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, sont de moins en moins nombreux, presque inexistants aujourd'hui, tous décédés. Donc c'est d'autant plus important.
Vous n'exagérez rien. Non, enfin, je connais beaucoup, je salue mes parents d'ailleurs, oui. Qui seront heureux de savoir qu'ils sont encore vivants.
Mais enfin, oui, c'est en effet, mais pas forcément. En tout cas, celles et ceux qui ont eu la chance de se sortir des camps.
Ah oui, mais il n'y a pas eu... Certes, la Shoah est un épisode absolument dramatique, tragique et atroce de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas eu que des déportés. Il y a eu aussi des personnes qui n'étaient pas juives, qui n'ont pas été déportées dans des camps, qui ont vécu et qui ont subi des choses affreuses, enfin, de la misère, de la famine, des bombardements, des exils, des exodes, des choses difficiles.
Oui, et il est entendu que cette première question nous importait parce que le policier ne peut pas résoudre précisément toutes les difficultés qui l'entourent. Et il doit aussi s'en détacher. Et il doit absolument collaborer avec tous les autres acteurs sociaux. Il n'est pas détenteur, au fond, ni garant de cette paix, de pouvoir l'installer, je veux dire. Hein. C'est clair.
Et
c'est,
d'en être le garant, en tout cas.
Il est le garant, disons, symbolique, hein, c'est
oui,
clair,
symbolique.
Vers celui, c'est vers lui que l'on peut se rendre en tout dernier lieu ou en toute situation, mais il n'a pas un pouvoir d'instaurer la paix. Il a un pouvoir d'intervenir pour tendre vers cette paix, mais il n'a pas un pouvoir de l'instaurer. On ne peut pas attendre non plus du policier qu'il fasse des miracles. Je veux dire, c'est ça aussi la première question qui nous importait de traiter.
Vous faites la différence entre instaurer la paix et instaurer l'ordre. Et là, peut-être que je m'adresse à l'élu. Instaurer la paix, on comprend bien que la paix, c'est un état, c'est une construction longue, politique, de tout un pays, de toute une nation. En revanche, instaurer l'ordre, ça peut être donné à de toutes petites factions, dans des toutes petites zones, et de manière pas nécessairement en accord avec la paix d'ailleurs.
Oui, alors l'élu que je suis dirait que lorsqu'on parle de paix en politique communale, c'est d'abord pour dire qu'on a envie qu'on nous l'affiche.
Foutez-nous la paix.
Non, mais sérieux, j'entends que ce soit les citoyens et concitoyens entre eux qui se disputent pour des questions de voisinage, par exemple, qui sont des situations assez dramatiques dans lesquelles, par ailleurs, le pouvoir exécutif n'a que très peu de compétences en dehors des bons offices qu'il peut éventuellement assumer. Ou alors, l'envie qu'on nous fiche la paix en tant qu'élu, parfois, parce que c'est vrai que sur nous se concentre passablement de tension et un peu tout ce qui fait que le village n'est pas en paix. Et c'est à nous d'assumer ça. On ne se rend pas bien compte avant d'y être, à vrai dire, que lorsqu'on représente une communauté, on dit, tiens, il y a Fadbert qui passe, on dit, ouais, il y a Sainte-Croix. On représente, on incarne, faut dire les choses comme elles sont.
Sans en être bien conscient.
Et on ne se rend pas tout de suite compte de ce que ça représente en termes de tension et d'habitation. Hein. Je rentre chez moi.
D'espérance, finalement, portée sur votre personne.
J'embarque avec moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes aussi, les concitoyens, les collègues municipaux, le conseil communal. Et il faut savoir aussi se redonner à soi-même la paix pour être ensuite à nouveau à même d'affronter cette fonction.
Yves-Patrick Delachaux.
Te roule.
Tout à fait. J'ajoute que en tant que policier, j'ai constaté que j'avais été formé au maintien de l'ordre.
C'est exactement la question que j'allais vous poser.
Et
entre
non pas au maintien
gardien
de la paix
et service d'ordre, vous êtes plutôt formé à...
Au maintien de l'ordre.
Et voilà, au maintien de l'ordre. Ce qui est infiniment différent.
Oui,
donc, hein.
Justement. Et c'est, voilà, ce n'est pas que symbolique.
L'ordre et la paix n'ont
rien
à voir.
Ça veut dire que pendant toutes ces années de pratique, j'ai usé de 1000 astuces pour que l'ordre soit maintenu avec mes camarades. Sans jamais avoir conscience que cet ordre-là, baigné dans un ordre républicain et démocratique ici, dans la région lémanique, ne posait pas tellement de difficultés. Sans autre réflexion, je peux avoir confiance en mes élus, à ma structure, et puis ça me convenait. Et il a fallu des événements pour
comme
s'interroger.
Les G8
par exemple,
et autres choses.
Mais
des
événements
G7
personnels. Personnels, c'est-à-dire des dérapages personnels. C'est-à-dire des fonctionnements où tout d'un coup, je me suis aperçu que sous prétexte de ce maintien de l'ordre, il était possible.
S'exprimer des petites névroses personnelles.
Ben, c'est-à-dire, la fin justifie les moyens.
C'est
et finalement, si je dois sécuriser un secteur, eh ben, je dois utiliser les moyens à disposition qui n'étaient pas, dans ma réflexion, des moyens de paix. Sachant, et je l'ai appris avec Frédéric Maillard, connaissant, sachant, réfléchissant sur cet état au-delà du politique, cette éthique démocratique, cette laïcité, cette intégration, cette médiation, enfin, tout ce qui fonde nos sociétés démocratiques, c'est à ce prix-là, en sachant ce que je défends, que je suis un bon flic. Et je ne suis pas un bon flic parce que je maintiens de l'ordre.
Oui, et Frédéric puis, Maillard. Je voulais rajouter à ce que dit Yves-Patrick, c'est la raison pour laquelle la deuxième question, celle qui suit, hein, est-ce que la paix tombe du ciel? Alors on a bien compris, non, elle tombe pas du ciel, ce sont que des tentatives qui nous font avancer, qui nous font espérer, qui nous font se lever le matin. La deuxième question qu'on avait envie de poser, c'est la souffrance comme point de départ. Parce que pour Yves-Patrick et moi-même, la souffrance était notre point de départ. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la référence absolue, c'est lorsque une personne crie de douleur, souffre. Là, il se produit quelque chose d'inacceptable à partir duquel on peut travailler. Mais tout autre critère de bien-être, de paix, à partir de quand est-ce la paix, le trouble, quel sentiment ou factuel ou fait réel, tout le reste, on peut disserter pendant des jours et des semaines, mais la souffrance... Elle traverse les âges et les cultures.
Et vous commencez par l'une des questions que l'on pose au brevet fédéral de policier, hein, le genre de questions que l'on pose et auxquelles on demande aux aspirants policiers de répondre le mieux possible. Au sein d'un État démocratique, quelle valeur l'agent de police favorise-t-il? Et alors, les réponses possibles, c'est la protection du citoyen ou la protection du plus faible, le service public, la garantie des droits démocratiques, etc., etc. Alors, là, évidemment, on est davantage dans une réalité assez singulière. On va peut-être pas parler de la Suisse, parce que, ma foi, toutes les polices se valent dans des États démocratiques. J'entends, vous devriez être formé en démocratie européenne sur des valeurs communes. Je vais prendre l'exemple de la France, qui est un exemple intéressant en ce moment, parce que la tension sociale y est un peu forte et que forcément la police a ou va avoir à y jouer un rôle selon que la situation se tendra ou se détendra. Jusqu'à quel point le policier doit-il faire respecter la loi de l'État ? Je prends donc l'exemple des Français, qui est une démocratie, je crois, dans laquelle les flics aujourd'hui vont prendre des enfants étrangers à la sortie des écoles maternelles pour les reconduire avec leurs parents ou leurs grands-parents à la frontière, montent des stratégies guerrières dans des banlieues françaises, et montent véritablement des stratégies guerrières, c'est-à-dire en collaboration avec des architectes, montent des stratégies guerrières et ferment manu militari des camps roms, tziganes, sur ordre de l'État. C'est-à-dire, à quel moment une police obéit-elle à l'État ? C'est-à-dire, on parle de valeurs, là, très bien, la protection du plus faible, etc., pourquoi pas. Seulement, un policier, il obéit à l'État et à une politique qui lui donne ordre de répression ou d'attaque ou de je ne sais quoi. Frédéric Maillard.
Oui, votre question est très pertinente parce que c'est tout l'enjeu de notre ouvrage. Hein. C'est des questions qui lient le policier au reste de la société. Et puis, nous voulons absolument éviter l'amalgame avec le pouvoir militaire puisque le policier se situe à l'exact opposé. Alors précisément, d'abord le policier, s'il est que soudé à l'État, il perd une partie de son pouvoir. Le moyen discrétionnaire dont dispose le policier lui permet de choisir ses missions.
Individuellement, vous voulez dire ?
Exactement. C'est pour ça que la question 14, la résistance vient-elle...
la question 14
La résistance vient-elle de l'organisation ou de l'individu ?
Ah,
voilà. Et oui, ben le policier, c'est les deux. Le policier, c'est un membre et représentant de l'État, mais c'est un individu. Avec le pouvoir de coercition, l'usage de la force, il engage l'État, mais avec le moyen discrétionnaire, il est un individu de pleine capacité, de pleine responsabilité. Et le policier...
Et il n'est pas puni s'il s'oppose à un ordre qui lui semble contraire à son éthique ou à une éthique humaniste ou je ne sais quoi. Ou...
Et le policier qui, parce qu'il raccompagne un enfant à la sortie de l'école chez ses parents et qu'il découvre que la maman de cet enfant est une personne illégalement établie en France.
Sans papier, disons.
Il peut fermer les yeux. Le policier a le droit, que les choses soient claires sur cette antenne. Il a le droit, par les intérêts qui soulèvent son métier.
C'est vrai ça, Yves-Patrick Delachaux, vous n'êtes jamais obligé de dénoncer, de dire quelque chose qui viendrait contrevenir à l'ordre, à la loi.
Dans l'absolu, on vous répondra qu'il faut obéir à la loi. C'est justement très restrictif et c'est ce qui me désole. Je réponds très rapidement en vous disant que j'aimerais que la police puisse s'exprimer sur ce sujet. Vous avez pris l'exemple de la France. J'aimerais qu'elle s'exprime. On pourrait connaître les faiblesses, les forces. On pourrait même s'y opposer. On pourrait changer de système, bon, etc. Mais la police est absente du débat démocratique. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'effraie. C'est pas la police qui organise les fermetures d'écoles ou le raccompagnement de Rome aujourd'hui.
Et pourquoi sont-ils
absents ? C'est une politique mise en place et la police, dans ce manque de pensée, de critique, de débat,
parce qu'ils
exécute.
Sont pas formés à le faire.
Elle l'exécute et c'est voilà. Ça qui doit nous ficher la trouille si permanente. Oui. C'est-à-dire, malheureusement, la police est capable aujourd'hui de défendre un camp et demain un autre. Et c'est ce qui m'effraie. Qu'elle s'exprime et pas de manière syndicale comme elle le fait aujourd'hui
elle
sur la structure.
Elle est capable de s'exprimer.
Elle est incapable de le faire. Elle ne prend pas l'espace. Il faut que ce soit des ex-flics ou d'autres métiers qui s'expriment à propos de la police. Vous n'entendez jamais la police s'exprimer sur son métier.
Elle
ne connaît pas son métier.
On dit toujours qu'elle n'a
pas le droit
de parler.
Trop facile.
Vous savez, quand on invite ici un policier, ce n'est pas si simple. Il faut qu'il ait demandé l'autorisation. Oui. Blaise Fadbert.
Alors moi j'aimerais réagir parce que effectivement on attend du policier qu'il exécute les ordres qui sont donnés et le pouvoir politique en est responsable ultimement, hein, ça c'est clair. Mais en même temps, nous autres élus sommes aussi assermentés, on prend aussi l'engagement de respecter les lois et de signaler les contraventions à ces lois ou règlements. Après, il y a un travail aussi de peser d'intérêt qui doit être fait. Et pour nous, c'est un des principes fondamentaux, c'est l'égalité de traitement. Et si on l'applique à l'extrême, on va générer nous-mêmes des injustices dont on pourrait nous tenir coupables. Et responsable en tout cas. Mmh. Et ça, c'est, on a effleuré le sujet tout à l'heure, et là c'est le théologien qui en parle, parce que on retrouve ici quelque chose autant au niveau opérationnel qu'au niveau politique, et ça m'effraie d'autant plus parce que c'est nous qui avons la responsabilité de donner des orientations stratégiques, après opérationnelles, on va un petit peu plus dans le détail, après on dit ok, ça, après c'est les chefs de gendarmerie autres qui feront le reste, mais on est confronté à ce qu'on appelle la malédiction de la loi, qu'on comprend jamais rien ce que voulait dire Saint Paul avec ça, mais c'est ça. C'est-à-dire, plus vous vous appliquez à respecter la loi en disant c'est ça qui est juste, plus vous vous fermez à l'opportunité d'intervenir contre la loi, mais en faisant grâce à celui ou celle auquel vous êtes confronté dans une situation. Mm-hmm. Et je pense que les policiers sont beaucoup plus confrontés que nous, très concrètement et pratiquement, à ces questions. Et je pense aussi que ça doit être un des facteurs de stress qui fait de ce métier
un métier assez éprouvant. De détresse sociale.
Nous, on est un peu plus loin de tout ça. Mm-hmm.
Mais moi, j'aime bien prendre cet exemple. Je fréquente beaucoup l'industrie horlogère avec Preventive Business, précisément. Et je peux vous dire qu'un directeur financier, un directeur de planification qui demande à ses maîtres horlogers de travailler l'une ou l'autre pièce de telle manière, si l'horloger ne retrouve pas la maîtrise de son travail, il refusera. Il refusera d'abîmer des pièces horlogères de complications. On peut lui donner les ordres qu'on veut, il refuse. Mm-hmm. L'artisan luthier aussi, il va pas travailler son bois de n'importe quelle manière. Et nous souhaiterions et nous aimerions que le policier puisse, avec son moyen discrétionnaire, dire là, il y a une discrimination, oui, je refuse d'embarquer cette famille. Oui. Et il doit être protégé. Et nous voulons qu'il y ait ces espaces de protection. Nous voulons que l'agent d'État qu'est le policier puisse se réfugier, puisse demander asile professionnel dans des refus qui, on l'a vu dans l'histoire, permettent de sauver la paix, de maintenir la paix.
Sauf qu'à chaque chapitre, vous donnez, donc, on l'a vu, l'une des questions posées au brevet fédéral de policier suisse, quelques réponses possibles. Alors pardonnez-moi, mais pour satisfaire aux règles d'éthique, de courage physique et morale, d'intégrité, de psychologie, de compassion et au discernement que les réponses supposent, il vous faudrait trouver des surhommes, c'est-à-dire des sortes d'abbé Pierre déguisé en Superman avec la chemise blanche de Bernard-Henri Lévy. J'ai pas l'impression que ce soit exactement le profil d'une jeune recrue qui veut que ça bouge et qui aimerait bien en découdre. D'ailleurs, dans une des questions, vous interrogez la part criminelle qui est en chacun de nous. En chacun de nous, évidemment, on a tous une petite part criminelle, que ce soit du petit crime ou du gros, hein, mais qu'il faut évidemment traquer et déloger chez la jeune recrue. C'est quand on les accueille, il faut savoir quelles sont leurs motivations. Et la plupart, on sent bien que la motivation, elle est, encore une fois, d'avoir un peu de pouvoir, d'en découdre, sonder physique.
Cette attitude est flattée, hein.
Elle est même flattée. Et Yves-Patrick Delachaux dit que l'ambiance macho
on est très
absolue.
Clair. Nous avons volé le métier policier. La police, la police ne connaît plus ses missions. La police ne connaît pas son métier. Ce qui nous a fait dire quelquefois que il y a eu vol de cette profession. Il faut la réhabiliter. C'est une profession qui demande de l'intelligence,
de la noblesse,
du savoir-faire, de la noblesse. Il y a quelque chose de chevaleresque dans ce métier-là, ouais, qu'on trouve difficilement. Ce qui ne veut pas dire que les policiers ne le sont pas. Encore une fois, il y a 1000 policiers qui font
autant de policiers,
excellemment leur travail. Bien
voilà,
entendu, l'organisation aujourd'hui policière abrutit ces femmes et ces hommes qui, pendant 10, 20, 30, 40 ans, font ce métier. Combien de fois on entend les policiers qui partent à la retraite ou un peu avant, et c'est dramatique, en disant « je sors finalement de cette profession, de cette organisation, plus démotivé, voire plus abruti que quand je suis rentré ». C'est triste, ils ne le sont pas responsables ou en partie, mais nous sommes, et Frédéric Maillard à ce moment-là, le manager, nous sommes dans cette réflexion permanente de réhabiliter ce métier policier dans les plus hautes fonctions de l'État.
Oui, je voulais réagir parce que vous évoquiez ce portrait idéaliste, complètement idéaliste.
Non, mais ce sont les réponses, à des questions vachement difficiles, en l'occurrence.
Vraisemblablement qu'autour de la table, on assume tous l'idée qu'il y ait un certain idéal du policier, heureusement, sinon où est-ce qu'on irait? Mais c'est clair que tout le monde n'est pas apte, dès le premier jour de leur entrée en fonction, à assumer ça.
On se demande.
Alors, à contrario, si on dit, on diminue les exigences, on cherche pas à atteindre cet idéal, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir à la place? C'est l'exigence qu'on se donne avec ces valeurs fondamentales que Frédéric Maillard va tracer jour et nuit pour essayer de les faire voir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une solution pratique à long terme, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour ça? Eh ben, c'est précisément d'instaurer un processus, d'institutionnaliser un processus d'apprentissage qui laisse la place entière à la fonction heuristique de l'erreur, au fait que l'on trouve lorsque l'on se trompe. Et je pense que pour un métier comme celui-ci, on est tenté d'imaginer qu'on n'a pas droit à l'erreur. Mais pourquoi? Pourquoi? À partir du moment où on ne s'autorise pas à avoir...
Ça dépend de la taille de l'erreur, disons.
Oui, bien sûr.
Il y a des erreurs qu'on appelle bavures et c'est très
embarrassant.
Exactement,
j'y pensais aussi en disant. Mais si on part de l'idée que la moindre erreur peut devenir une bavure ou sera considéré comme tel dans les rangs des policiers, j'en suis pas, hein, mais j'imagine la pression qu'il peut y avoir au sein d'un corps. On dit, bah voilà, machin, il en a fait une de travers, c'est pas grave, mais par rapport à l'idéal que l'on s'impose dans le groupe pour dire on doit tous être parfaits, le gars, il est cuit. Il est déjà plus sélectionné pour la suite. Donc, je pense que...
C'est pas tout à fait vrai non plus. Et vous le savez bien, Blaise Fadbert, que des gens qui ont fait des bavures ou des erreurs ont été récupérés au sein d'un corps qui, par ailleurs, est extrêmement solidaire. Et vous le dites très bien, qui est même isolé. C'est-à-dire que nombre de flics ne vont jamais ou très rarement à la rencontre des civils. Ils n'ont pas d'amis civils, pour peu qu'ils se marient avec une femme flic. Alors là, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'ils ne quittent jamais l'univers policier. Ils connaissent pas les civils, en fait. Il y en a beaucoup qui sont dans cet état d'isolement. Donc, on se retrouve avec des gens qui soutiennent, par ailleurs. Qui soutiennent leurs conneries, hein, et leurs bêtises, et leurs égarements. Mmh. On est bien d'accord.
Mais tout à fait, et je me suis permis de parler d'organisation mafieuse.
Bah, oui, vous l'avez fait.
Ben oui,
oui
et la première règle, c'est la loi du silence.
Voilà.
Voilà. Alors là, j'interviens parce que.
Alors, Blaise Fadbert, intervenez.
Ben oui, j'entends. Si le soutien, la solidarité à l'intérieur du corps, il est dit dans ces termes-là, la loi du silence est une loi mafieuse, on est loin du forum où la parole est libérée et où il y a la possibilité d'apprendre.
Alors elle est libérée de manière assez curieuse, et vous le dites vous-même, Frédéric Maillard, c'est-à-dire que nombre de gens ont encore la tentation de s'adresser à Yves-Patrick Delachaux, ancien collègue, etc., mais conservant la mémoire qu'il est un ancien collègue, n'ose pas aller très loin. Et puis, après, vous appelle. Et là, ça peut durer des heures.
Ben oui.
Où tout sort.
Ben oui, mais heureusement...
Tout sort de ce qui est de la frustration, de la stigmatisation, parce qu'évidemment, dans le regard des gens, flic, c'est pas...
Et durant les analyses de pratique, et c'est là qu'on voit que durant une analyse de pratique, on peut aborder par exemple le portrait idéaliste que vous avez présenté tout à l'heure. Il n'est pas si idéaliste que ça si on prend une exigence après l'autre. Mais voyez, moi qui travaille également en haute école de travail social, un animateur socioculturel, un travailleur social, c'est 6 ans de formation, 4 ou 6 ans de formation en emploi. Aucun des ressortissants de ces formations ne s'est plaint d'avoir un gavage de cerveau, ne s'est plaint d'un surplus. Au contraire, ils en redemandent, ils s'engagent en formation continue. La police, c'est une année de formation. Vous imaginez, pour un travail aussi complexe, avec les exigences que vous avez justement dites tout à l'heure...
Et avec un bagage de départ souvent fragile.
Souvent fragile, et en tout cas pas plus fourni que les bagages qu'ont les travailleurs sociaux qui s'engagent en emploi. Et je vais encore plus loin... Les flics qui ont vécu 30 ans de métier sur le terrain, hein, ils partent à la retraite quand dans toutes les autres professions, avec le même âge, on construit des habilités, on s'engage à l'université.
On accède à la hiérarchie.
À 54 ans, j'ai autour de moi des amis qui, à 54 ans, font leur habilité universitaire pour aller rendre et traduire l'expérience qu'ils ont vécue tout au long de leur carrière professionnelle auprès des plus jeunes. Au même âge, les policiers entrent en retraite. Pseudo-retraite, parce
mais que chance.
Généralement, oui, mais ils ne livrent plus leur expérience, ils ne livrent plus leur savoir, ils s'appauvrissent. Et puis, je dis pseudo-retraite, parce que souvent, on les retrouve dans des groupuscules plus ou moins honorables, privés de sécurité, ils arrondissent leur fin de mois à gauche, à droite, ils s'engagent dans des opérations les plus loufoques possibles, parce qu'ils sont encore en pleine santé. Au lieu de rendre à la profession qui les a nourris, l'expérience, c'est peut-être cette remise en question dont nous parlons ce soir. Donc je peux vous assurer que les exigences qu'on a évoquées tout à l'heure, elles sont minimales. Et la police doit changer. Impérativement, elle se meurt elle-même.
Elle s'est remise en question, passe évidemment parce que vous signalez tout au long de cet ouvrage et qui est essentiel, à savoir que le policier est non seulement un gardien de la paix, mais c'est surtout un garant de ce que vous appelez les droits humains, enfin de ce que l'on appelle évidemment les droits humains. On n'a pas parlé des droits humains ce soir, mais c'est vraiment ça.
Les droits humains fondent notre constitution, pratiquement. Et puis le policier est le seul agent d'État qui peut opérationnellement engager les droits humains dans son action de tous les jours.
Véritablement,
il limite les droits humains. Quand il interpelle une personne et prive cette personne de liberté jusqu'à 24 heures dans la garde à vue, il est le seul à pouvoir le faire, hormis la décision judiciaire qui peut tomber ensuite. Mais c'est le seul qui peut faire face à une personne...
C'est celui qui enclenche la machine,
bien sûr, face à une personne qui sera
toujours pour le policier présumée innocente. Donc c'est fondamental. Mais là encore, je vais encore effrayer quelques auditeurs, mais les policiers, pour la grande majorité, méconnaissent, ils ne le savent pas.
Enfin, ils n'en ont pas la conscience.
Non.
Est-ce qu'on doit avoir peur d'un flic ?
Yves-Patrick Delachaux. La question m'est posée.
Oui.
Surtout que j'étais le pire.
Non, j'en sais rien.
Vous savez
bien qu'on a
peur. Faut pas. Alors, exemple vécu dernièrement en Catalogne, une mère de famille avec un tout petit gamin qui s'adresse à une patrouille de police en disant « J'ai oublié mes affaires à l'intérieur du supermarché, vous pouvez me garder ma gamine ?» Pouf, et elle file. Ce détail-là, pour moi, est évocateur de la maîtrise. On sait que la police espagnole, après le franquisme, s'est remis en question. Il y a des belles choses à reprendre en Espagne. Mais cet acte n'est pas simplement la confiance en la police. Tenez, je vous garder 10 minutes ma gamine et je vais faire vite une course.
J'espère qu'elle a fait la caisse.
Ça veut dire que... Oui, elle a braqué, en fait, les supermarchés.
Ah bah, j'espère, c'est la moindre des choses.
C'était une technique pour maîtriser les policiers.
Évidemment.
Mais ça veut dire aussi que les policiers ont bien... sont capables d'accueillir cette gamine, sont capables, s'il doit y avoir une intervention, de annoncer à sa hiérarchie qu'ils peuvent pas s'y rendre parce qu'ils gardent une gamine, la confiance du public, etc. Enfin, avec un exemple de ce type-là, il est possible de réfléchir à la mission policière.
Ouais.
Donc bien entendu, il ne faudrait pas avoir peur de la police.
Ouais. Vous racontez
Coluche n'était pas de cet avis.
Vous racontez ça, mais vous racontez aussi des épisodes qui se passent dans le 9-3 à Seine-Saint-Denis, à la Courneuve précisément. Où les flics vous agressent ouvertement, sans aucune raison.
Je reviendrai pour ça.
Vous reviendrez, parce qu'ils sont éduqués à agresser dans les banlieues. C'est-à-dire à faire peur. Des pitbulls, voilà. Mais ils sont dressés pour ça.
Là, on voit le moyen discrétionnaire, qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc on voit bien que le policier a le choix. On le voit.
On ne voit pas qu'il a le choix, mais on voit qu'il appartient à un État qui lui a demandé de le faire.
Mais,
donc à une hiérarchie.
Mais il est vis-à-vis, il est face à cet État. Il peut se dresser face à l'État.
Le jour où vous dites à vos flics, faut attaquer le quartier machin, etc., parce que ça va plus du tout. S'ils le font pas, vous serez pas content. Sauf que c'est pas peut-être dans votre manière.
Non, mais moi j'ai plutôt donné l'ordre au chef de poste et à son remplaçant de lire le bouquin de Delachaux et Maillard.
Voilà. Policier, virgule, gardien de la paix. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein, il est impeccable.
On en a en tout cas vendu un à Sainte-Croix.
Il faut savoir que je leur ai donné l'ordre d'en faire une critique sans complaisance. Et quand vous demandez à deux gendarmes de critiquer un policier, vous êtes jamais déçus.
Frédéric Maillard et Yves-Patrick Delachaux, édition La Question, policier, virgule, gardien de la paix, point d'interrogation. C'était aux éditions de l'AB. C'est à la fin de cette émission. Préparée avec les collaborations de Stéphanie Gauthier pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Samuel Morier-Genoux pour la réalisation après les informations drôles d'histoire choisies et racontées par Lolita. Très très belle soirée à tous et à demain. La première, il est 21h.